Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Voilà, la matière de l'exercicement des relations entre le privé, notamment le contrat de bail, relève du droit privé. Et donc, une personne qui voudrait obtenir un exercicement judiciaire ne doit nullement s'adresser ni à la police ni au parquet qui ont essentiellement un rôle répressif, mais doit s'adresser au tribunal de grande instance de son ressort en voie d'assignation, et le juge va convoquer les deux parties, va voir la régularité de prétention ou le fondement de prétention des uns et des autres, va se prononcer probablement en condamnant l'autre à déguerpir les lieux. Et ensuite, d'une telle décision, la personne sera amenée à exécuter un tel jugement, ou ce jugement qui n'est pas exécuté, il y aura une exécution forcée.
Alors si par exemple il peut arriver qu'il y ait un déguerpissement judiciaire mais qui s'est fait d'une manière irrégulière, alors la personne lésée à ce moment-là, comment doit-elle procéder pour rentrer dans ses droits?
Voilà, le parquet, le ministère public à travers le parquet, donc le parquet de grande instance, le parquet près de la cour d'appel, le ministère public a reçu la mission de par la loi de veiller à la bonne exécution de lois et de décisions judiciaires prononcées à travers le pays. Donc, une partie qui se sent lésée par une procédure cavalière, on le sait, comment les gens boutiquent des procédures dans notre ville et dans notre pays, généralement, malheureusement, doit saisir le ministère public du ressort, le parquet, et le parquet va inviter le huissier de justice qui est accrédité, qui a été commis à cette date, voir si la procédure a été régulièrement, il y a une décision qui a été prononcée en bonne et due forme. S'il n'y a pas une telle décision, il peut ordonner la suspension d'une telle décision. Mais quand il y a, vous savez, au-dessus le jugement, il y a rien qui est au-dessus d'un jugement. Un jugement peut être mal rendu, il y a des voies de recours ordinaires et extraordinaires qui sont ouvertes aux parties, de manière à ce que dans les délais impartis, une personne puisse aller en appel contre un tel jugement, une personne peut aller en opposition contre un tel jugement. Donc seul le ministère public peut vérifier et que ce soit au cas où ça serait fait en violation de la loi. Et qu'il n'y ait pas une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée, comme on dit, devenue définitive.
À quel moment une décision de déguerpissement est irrégulière?
Une décision judiciaire. Une décision de déguerpissement.
Oui.
S'il n'a pas été prise par l'autorité compétente, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux sortes de déguerpissement. Il y a des jugements administratifs qui est du ressort de la commune à travers le bureau de l'habitat de Bourgmestre, et le déguerpissement judiciaire qui est de la compétence du juge civil au niveau du tribunal de grande instance. Donc, si vous sous-estimez qu'il y a un magistrat du parquet gêné qui s'est permis par voie de réquisition d'informations, comme malheureusement parfois il en est le cas, c'est permis d'ordonner qu'une personne soit déguerpie, et parfois on parle d'aide de logement pour contourner le terme de la loi. Et une telle décision, quand vous saisissez les instances compétentes, devra certainement être annulée, la personne rétablie dans ce droit. Ce n'est pas parce qu'une personne ne paye pas, ne s'acquitte pas de ses loyers, n'a plus une garantie locative qui est encore en cours, et que cela donne le droit et le semblant au bailleur de le matraquer, de le malmener comme il veut. Donc, tout divertissement doit suivre la procédure prescrite par la loi et par le règlement.
Et si par exemple vous êtes une personne à alpha partielle et puis un malin s'arrange pour obtenir des documents et vendre la parcelle à quelqu'un qui a par exemple beaucoup de moyens et qui arrive à obtenir une décision de déguerpissement un bon matin, les policiers se présentent et on vous met dehors. Quelle est la voie de recours?
Je vous souviens que jeudi, la fois dernière, on avait parlé du tribunal, qui est une façon consacrée par la législation, par laquelle on saisit tout celui qui se permettrait de vendre ou d'hypothéquer un immeuble appartenant à autrui. Et un principe général du droit qui dit que fraus omnia corruptum, la fraude corrompt tout. Lorsqu'on estime que, lorsqu'on établit qu'une personne s'est fait établir des titres sans en avoir qualité et grâce auxquels il obtient la décision de déguerpissement frauduleux d'un tiers en lésant ses droits, en recourant au mécanisme de droit, c'est-à-dire en saisissant les instances judiciaires compétentes, on peut annuler, on peut arriver d'abord à faire suivre une telle décision et à l'attaquer devant le juge compétent.
Alors, avant le déguerpissement, la personne à déguerpir doit être informée avant ou pas?
Tout naturellement. Quand il s'agit d'un déguerpissement judiciaire, la personne sera invitée par voie d'assignation devant le juge compétent qui va l'appeler, établir la qualité de celui qui se plaint, vérifier les griefs pour lesquels cette personne est attirée devant la justice et essayer si vraiment les prétentions du bailleur s'avéraient établies et prendre cette décision. Pour ce qui est du déguerpissement administratif, généralement, le bailleur descend à la commune, il prend ce qu'on appelle en audition et puis on délivre un préavis de faire le contrat de bail. Ce préavis-là, la personne locataire sera invitée devant l'OPJ de l'habitat, elle sera verbalisée et on va lui notifier un préavis qui prendra cours par exemple pour les immeubles à caractère résidentiel de 3 mois, à caractère commercial de 6 mois et à caractère industriel de 12 mois. Et au terme de ces 12 mois-là, s'il ne vient toujours pas à s'exécuter, il y aura des prorogations de quelques temps et puis après, on peut procéder au déguerpissement forcé.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Voilà, nous parlons aujourd'hui du déguerpissement forcé avec Jérôme Nongo, praticien de droit. Vous avez des questions, des préoccupations, appelez au 081-890-6394. Quel est le recours juridique en cas de déguerpissement? Rabbi Tulou nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Jérôme.
Quelle est votre question?
Je dis juste parler à Madame Marc. Je veux juste savoir, ma question est la suivante. Vous avez par exemple, vous avez votre maison à vous, et qui était fait que les votre papa ou votre marâtre s'était arrangé et que les papas l'avaient cédé la maison. Et comment? Vous l'avez légué la maison, sans pour autant que vous les enfants vous le saviez. Et que vous avez perdu votre papa, alors, et la maman qui détient tous les documents. Et comment résister à cela? Parce qu'un jour, vous attendez à ce qu'un jour vous puissiez être délogé par force. Dans ce cas-là, quelle procédure devons nous suivre pour vraiment prendre notre maison? Parce que c'est pas légalement, c'est des fautes que la marâtre s'est arrangée au moment que le papa était malade pour acquérir la maison. Les documents par celui-là.
Merci, Rabbi Jérôme Nongo.
Avant de répondre à la préoccupation de notre auditeur de Kinshasa, je voudrais recentrer notre débat. Les déguerpissements concernent les relations relative au contrat de bail liant un bailleur et un locataire. Donc, en dehors de ces binômes-là, on ne peut pas parler d'exercice. Pour revenir à la préoccupation de notre auditeur, il parle de droits de copropriété et de succession qui sont bafoués par un co-héritier. Dans ce cas-là.
Mais il craint un exercice un jour.
Oui, ça c'est la conséquence. C'est-à-dire que l'exercice-là n'étant pas demandé par quelqu'un qui a un droit. Parce que pour solliciter un exercice de quelqu'un, vous devez avoir la qualité de propriétaire et de tailleur des lieux. Or, pour le cas évoqué par notre auditeur, il est co-héritier au même, peut-être de premier degré, au même titre, et la maman de l'île est sociétaire parce qu'elle est veuve de l'ancien propriétaire. Comme étant tous des co-héritiers, nul ne peut évincer l'autre de ce droit. Ce monsieur devra, notre auditeur, dans ce cas-là, c'est centralisé, devra établir, déjà saisir le cours des tribunaux pour assurer qu'on puisse reconnaître ce droit et être amené à ce qu'on appelle amener le tribunal à ce qu'on puisse liquider la succession à travers une procédure de manière à ce que chacun puisse se retrouver dans ses droits.
Jean-Paul Mézi à Issa Kinshasa, bonjour.
Bonjour à tous les autres de la radio Capi.
Oui, Jean-Paul, nous parlons du dégarpissement forcé. Quelle est votre question?
Une petite préoccupation, je sais. Est-ce qu'un contrat à durée déterminée peut être résilié avant la date de l'expiration de ce contrat? À quelles conditions?
Ah, vous parlez d'autre chose, Jean-Paul?
Le dégarpissement, bien sûr. Donc, dans le sens où il y a un contrat qui est signé entre un bailleur et un locataire,
oui.
Un contrat qui est à durée déterminée.
Oui.
Et ce dernier ne pense pas au pays ou bien à répondre valablement à ses obligations. Est-ce que les bailleurs sont légitimes dans ses droits peuvent en venir à déterminer?
Voilà, Jérôme Longo.
Voilà, le contrat de bail peut être à durée déterminée comme à durée indéterminée. En principe, un contrat à durée déterminée connaît son terme à l'expiration du délai pour lequel il a été conclu. Mais malheureusement, s'il arrive que le locataire défaillant ne puisse pas s'exécuter de bonne foi, et l'autre devra solliciter auprès de l'autorité compétente son dégarpissement sans qu'il puisse avoir de bonnes raisons d'être préavisé. Le préavis légal, comme on le dit, ça se conçoit dans le contexte d'un contrat de durée indéterminée. C'est un temps qui est donné à l'autre partie pour qu'elle puisse se préparer à quitter les lieux qui ont été cédés en location. Mais lorsqu'on est dans un contrat de durée déterminée, les termes étant connus, il n'a pas besoin de ce préavis, il doit se jeter de bonne foi. Au cas contraire, on pourrait le déguerpir directement. Par voie judiciaire ou par voie.
Si le contrat est à durée déterminée, mais l'une des parties veut rompre le contrat à ce moment-là.
Oui, il veut le rompre avant l'échéance échue le terme
oui.
Déterminé.
Oui.
Là, il devra solliciter donner à l'autre un préavis. Et malheureusement, le juge, si surtout le cas d'un juge civil, c'est plus dans ce cas, risquerait de prononcer ce jugement autour du bailleur qui voudrait mettre fin au contrat avant son terme.
Fidel Makito nous appelle d'Issirou, dans la province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour. Ma question était seulement de savoir, pour faire un contrat de bail, il faut aller au niveau des tribunaux, soit ou bien seulement se contacter entre deux personnes. Et puis la deuxième question était de savoir qu'est-ce que la loi prévoit pour déjà. Il faut des contrats de bail sans informer l'État, et puis qui ne fait même pas aussi les faux des lois. Qu'est-ce que l'État prévoit pour ces gens-là?
Voilà, Jérôme Longo.
Merci à M. Fidel.
Ah, Fidel.
Pour ce qui est du contrat de bail, c'est un rapport de droit privé. C'est-à-dire un contrat, c'est un concours de deux ou plusieurs volontaires autour d'une matière. Quelconque, donc vous n'êtes pas obligé de vous présenter devant un parquet, devant un tribunal pour passer un contrat. Mais pour votre sécurité, vous devez, selon la loi, déposer un exemplaire au niveau du service de l'habitat de la commune de votre ressort, de manière à ce que ce contrat soit enregistré et que l'État puisse percevoir les taxes que vous lui devez. Hein, vous lui devez. Parce que c'est un peu normal quand les loyers, les taxes, les impôts sur le loyer locatif, que le bénéficiaire doit verser à l'État. Et c'est de cette manière-là, on devra aller présenter ce contrat et le faire homologuer au niveau de la commune. Pour ce qui est, rappelez-moi sur la deuxième question.
Voilà, il a parlé du contrat, et puis la deuxième, les gens qui signent des contrats sans passer par la commune et sans verser les droits.
Voilà, pourquoi j'ai rencontré les deux préoccupations, donc ils peuvent signer un contrat en privé, mais ils doivent aller le présenter à l'autorité communale pour que cette autorité puisse s'assurer qu'il n'y a pas de clauses qui sont contraires à la loi ou à l'ordre public et que au moment voulu les services de taxation puissent recouvrer ce qui est dû à l'État. Parce que vous comprenez que dans un contrat un contrat ne peut pas être signé par exemple avec un mineur par exemple, ou un contrat ne peut pas comporter des clauses qui sont contraires à la loi ou au bon mœurs. C'est l'obligation de l'office de l'habitat de s'assurer de ce qui est figuré dans ce contrat-là, respecte la loi et l'ordre public.
Alors, une personne qui estime être victime d'un dégarpissement illégal, alors cette personne devra attendre combien de temps pour être rétablie dans ses droits ou pour récupérer la maison? Ça peut prendre beaucoup de temps.
Non, il n'y a pas un temps qui est prescrit pour attaquer, pour défendre ses droits. Il va aussitôt se référer aux autorités judiciaires ou administratives, et on a vu dans plusieurs cas, lorsque le parquet envoie un OPJ ou bien un officier du ministère public pour vérifier la régularité de la procédure, et surtout en étant plus vieux, s'il est avéré que c'était des déguerpissements anarchiques et sauvages, souvent, dans illico, on ordonne la réinstallation de cette personne lésée, parce que vous voyez, c'est toute une famille qui parfois a pu se défaire les efforts de toute une vie exposés aux intempéries, et c'est tout à fait normal que l'on réagisse dans le temps imparti.
Sébastien Tchamala et Tal Boumbassi, bonjour.
Oui, alors, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui, on vous écoute, Sébastien.
Oui, j'ai une préoccupation.
On vous écoute, allez-y, Sébastien.
Oui, j'ai une préoccupation concernant la période qu'on donne aux locataires, la période appelée la période du délai avant de qu'il y ait par exemple un délogement forcé. Je voudrais maintenant savoir, demander à l'invité si pendant cette période, les locataires est obligé, n'est-ce pas, de payer mensuellement comme il payait, ou c'est une période où le locataire doit rester comme ça sans payer le prêt mensuel de la maison. Merci beaucoup, c'est ma préoccupation.
Jérôme Nongo.
Voilà, monsieur Sébastien, je confirme que les relations et les obligations qui naissent du contrat de bail demeurent en vigueur même en temps de préavis. Donc vous occupez la maison d'autrui, vous devez vous acquitter de l'obligation de payer le loyer et de payer les frais de consommation d'énergie, donc d'eau et d'électricité. Donc ce n'est pas un état de grâce pour jouir impunément du bien d'autrui. Chacun doit remplir ses obligations. Le bailleur doit vous laisser jouir pleinement de votre maison comme étant l'occupant des lieux. Et vous devez vous acquitter de votre obligation de payer et le principal qui est le loyer et les frais annexes, consommation d'eau, de l'électricité, de téléphone ou autre.
Soupi Nyembo, vous êtes à Kalima, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kansama, bonjour à notre invité, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Kassi.
Quelle est votre question, Soupi Nyembo?
Oui, je voudrais demander pour faire un bon contrat, par exemple, vous pouvez appeler les policiers ou bien les voisins ou bien vos frères de la famille pour saisir le bon contrat pour éviter certaines choses. Par exemple, si le contrat a été fait d'autres jours, votre patron voulait déchirer ce contrat-là, est-ce que ces personnes qui seront nécessaires, par exemple aux voisins ou bien aux policiers, si le policier dira un jour, moi j'étais présent, ou bien seulement les voisins qui entourent votre quartier un peu servent.
Voilà, vous voulez dire alors de la signature du contrat, faut-il faire appel au témoin, Jérôme Longo?
Voilà, le contrat, c'est un rapport de droit privé. Vous devez vous référer aux spécialistes de technicien de droit, notamment les avocats, les défenseurs judiciaires et toute autre personne qui est avertie, qui peut vous conseiller pour passer un contrat et rédiger un contrat à bonne et due forme. Et puis, il y a des trucs humains. Il y a par exemple dans la ville ici urbaine de Kinshasa, où je réside, il y a l'autorité urbaine qui a édicté de modèles. Mais on peut s'inspirer parce que nous ne pouvons pas chercher à inventer la roue alors que la roue est déjà là. Et pour votre sécurité, il y a vos deux signatures qui font foi. Vous pouvez aussi avoir un ou deux témoins. Et la précaution, c'est d'aller ensemble aller enregistrer ce contrat au niveau de l'habitat. Le cachet de l'autorité communale ou du quartier ou de la société, l'autorité publique qui pourrait revêtir cela serait davantage foi et en cas de problème, cela pourra être une preuve irréfutable pour votre adversaire éventuel.
Donc cela vous met à l'abri d'un déguerpissement forcé éventuel?
Non, le déguerpissement, ce n'est pas la conséquence de ne pas avoir un contrat de bail. Le déguerpissement est consécutif à une mauvaise foi d'exécuter une fin normale de contrat. Vous comprenez, d'une façon de sens, et pas il occupe le lieu et que ses rapports ne sont pas plus bons avec celui qui a donné la maison, prend des dispositions pour, dans le délai raisonnable, de pouvoir libérer le lieu. Et lorsque vous mettez le bailleur à recourir à cette procédure extrême, vous devez malheureusement subir les conséquences. Donc toute personne française doit éviter de se voir exposée à une telle procédure, à moins que le bailleur soit dans une mauvaise foi avérée. Et là, vous pourrez vous demander à ce que la loi soit appliquée et que vos droits soient protégés.
Jérôme Longo, praticien de droit, je vous remercie.
Merci.